Voix Nue. Toute cette semaine, Raphaël Bourgois rencontre Françoise Gaspard. Ce soir, défendre les femmes dans le monde.
Bonsoir Françoise Gaspard.
Bonsoir Raphaël Bourgois.
Lors des trois premières émissions, nous avons suivi votre parcours politique, militant et intellectuel. Tout cela prenait place évidemment en France, même si on a évoqué aussi votre séjour en Californie, à Berkeley, comme professeur invité donc à l'université de Berkeley. Mais vous avez aussi mené un travail à l'international et ça commence en Europe. Bien sûr, vous avez été députée européenne, on l'a dit, mais dès le début des années 90, vous êtes contactée pour être experte sur les questions des femmes en Europe. Qu'est-ce qu'on vous demande à cette époque-là, Françoise Gaspard ?
Nous sommes en 1991. Je viens d'intégrer l'école des hautes études. Et Alain Touraine, qui avait rencontré à Bruxelles une fonctionnaire qui s'appelle Agnès Hubert, qui traitait des questions femmes au sein de la Commission européenne, lui demande une personne pour intégrer un réseau qui vient d'être créé, le réseau femmes dans la prise de décision, et Touraine cite mon nom. Or, Agnès Hubert me connaissait, puisque j'avais fait, quand j'étais à l'ENA, mon stage à Bruxelles auprès de la représentation permanente de la France auprès des communautés européennes, et que c'était en 1975, quand l'ONU avait décidé que 75 serait l'année de la femme, et j'avais été chargée par l'ambassadeur à Bruxelles, Étienne Burin-Desrosiers, de travailler avec l'équipe européenne sur la rédaction d'un rapport sur les femmes et l'Europe. Donc je connaissais bien le système européen. Donc j'intègre en 1991-92 ce réseau d'expertes européenne, une experte par pays, dans 12 pays de l'Union européenne, chargée sur 5 ans de défricher toutes les questions des résistances qu'ont les femmes à intégrer les sphères de décision, aussi bien dans le politique que dans le syndical, que dans l'économique, etc. etc. Donc, nous travaillons sur ces questions. La première année sur les femmes dans la décision politique, et j'avais déjà, je crois, mentionné cette conférence à Athènes de 1992, où nous donnons les premiers chiffres des femmes dans la prise de décision dans les parlements nationaux, et où la France est très mal classée puisque elle est 11e sur 12 pour le nombre de femmes dans son parlement national. Pendant 5 ans donc, nous allons travailler sur ces questions. En 1996, le réseau femmes dans la prise de décision est supprimé. Il y a un certain nombre de résistances dans différents pays, notamment l'Angleterre de Madame Thatcher ou l'Allemagne conservatrice à l'époque pour cette agitation que nous avons initiée sur les femmes en Europe. Donc notre travail est supprimé, et nous étions à ce moment-là, nous venions de commencer à travailler sur les femmes dans les collectivités territoriales, où là nous disposions de très peu d'informations. Et la Commission européenne me suggère à ce moment-là d'aller voir le Conseil des communes et régions d'Europe, qui est un conseil qui rassemble les élus communaux et régionaux dans l'ensemble des pays européens, et de leur suggérer la possibilité d'une étude sur les femmes dans la prise de décision au niveau local. Et le projet que nous montons très, très rapidement avec le Conseil des communes et régions d'Europe est financé effectivement par la Commission européenne, et commence là une aventure très intéressante que nous allons mener pendant plusieurs années avec des fonds européens, où nous promenons à travers l'Europe pour recueillir des statistiques sur les femmes dans les collectivités territoriales, dans les communes européennes, où nous montons des séminaires avec des sociologues des différents pays où nous allons pour défricher la question, et où nous faisons aussi de l'agit-prop en quelque sorte, en encourageant la veille, un an avant les municipales dans ces pays, les partis politiques à prendre des femmes sur leur liste. À la fin de cette étude, nous montons un projet qui est de rédiger le portrait virtuel d'une ville égalitaire. Donc voilà, c'est un travail qui nous permet de découvrir que dans tous les domaines de la vie locale, ce que je n'avais pas vu quand j'étais maire de Dreux, j'avais mené des actions dans un certain nombre de domaines, les gardes d'enfants, les violences faites aux femmes, mais en travaillant et en répertoriant des exemples pris dans une vingtaine de pays européens sur ce que font des communes en matière d'égalité, nous découvrons, par exemple, que la question du temps dans la ville est une question fondamentale.
De quelle façon, Françoise Gaspard ?
Nous découvrons que, par exemple, lorsque les femmes arrivent, ça a été le cas dans certains pays, des pays nordiques, mais aussi en Italie à l'époque, lorsque les femmes dépassent 20-30% du conseil municipal, elles posent la question du temps. Alors comment ? Eh bien, elles disent, nous ne pouvons pas continuer à travailler de la même façon dans nos conseils municipaux. Les horaires ne vont pas. Mais également, dans la ville, il faut que les heures d'ouverture des services publics soient adaptées aux besoins, au temps des hommes que des femmes. Le temps quotidien des femmes et des hommes n'est pas le même. Notre intégration du temps va conduire à des politiques de mise en œuvre de temps mieux partagé dans la ville. Autre dimension qui apparaît, celui des déplacements. On se rend compte très vite que les hommes se déplacent moins que les femmes dans la ville, mais que c'est généralement eux qui ont la voiture. Donc que les femmes utilisent les transports en commun. Qu'il va donc falloir mettre les transports en commun en relation avec les besoins des femmes. Elles prennent l'autobus, mais quand elles ont des courses, qu'elles ont un enfant, etc., monter dans un autobus, c'est compliqué. On va par exemple faire en sorte, et je l'avais appliqué, j'avais appliqué cette affaire à Strasbourg, à l'époque, où les autobus vont être adaptés pour que les marches descendent de l'autobus pour faire monter les femmes avec des enfants ou avec de gros paquets. Et ça va aider tout le monde, y compris les personnes âgées. Donc, le problème des déplacements est pris en compte. On pourrait également prendre d'autres exemples. Les noms des rues. On se rend compte que 95% des noms des rues et des places sont des noms masculins. On va donc mener des politiques dans un certain nombre de villes pour que, à partir de telle année, tous les nouveaux numéros, noms de rues, vont être des noms de femmes, etc. Parce que c'est important que les filles puissent avoir des repères aussi sur des femmes célèbres qu'on va mettre en avant dans les villes. Voilà, on pourrait donner 1000 exemples. Nous avions trouvé 12 domaines dans lesquels l'égalité pouvait être menée dans la ville. Et nous avons rassemblé ces mesures donc dans une ville virtuelle, en donnant pour les collectivités locales qui le souhaitaient des exemples qui étaient pratiqués dans telle ou telle ville. Je prendrai encore un autre exemple parce qu'il était important, le budget. Comment genrer le budget d'une collectivité locale ? Ce sont les Suédoises qui ont commencé à lancer cette opération en étudiant le budget, dans le budget municipal, ce qui allait aux hommes et ce qui allait aux femmes. On s'est très vite rendu compte, par exemple, que pour le sport, 80% du budget allait au foot, qui était un foot essentiellement masculin. Donc, on a rétabli des budgets en favorisant les sports dits féminins ou mixtes pour pouvoir genrer le budget. Donc, vous voyez, il y avait plein de mesures qui pouvaient être prises. Nous les donnions dans un document, un book, un livre que nous avons fait, qui a été traduit dans 9 langues européennes et qui donnait les lieux où telle politique avait été mise en œuvre et les collectivités territoriales pouvaient aller sur Internet ou téléphoner à telle collectivité pour avoir des exemples. En France, nous avions découvert qu'il y avait une ville qui était très en avance sur l'égalité des femmes et des hommes, la prise en compte de l'égalité. C'est la ville de Rennes qui était pionnière en la matière.
Alors la ville est un espace masculin depuis, c'est vrai qu'un certain nombre de travaux de géographes notamment ont pu le montrer aussi Françoise Gaspard. On voit dans votre approche que finalement, cette vieille question qui est la question de l'accès à l'espace public par les femmes, qui est une vieille question qui agite le féminisme, vous arrivez un peu à la rénover par cette approche, on va dire, internationale, par ce regard européen, c'est la comparaison qui vous permet d'arriver à cette prise de conscience véritablement.
Et c'est la comparaison, mais c'est surtout la découverte de politiques qui sont menées ici ou là et qui peuvent être transférées ailleurs. Donc il y a eu véritablement des mesures qui ont été prises. Il y a ensuite eu l'élaboration d'une charte européenne de l'égalité dans la ville, qui a été adoptée, je crois, en 2001 ou 2002, et qui est, à l'heure actuelle, ratifiée par plus de 3000 communes en Europe, avec cette charte donne une méthode pour introduire l'égalité dans la ville, en commençant, bien sûr, d'abord par l'exigence de parité, non seulement des élus, mais également la parité dans les services communaux.
Alors, est-ce que à cette époque-là, Françoise Gaspard, vous parvenez à mettre en place ce qu'on pourrait appeler une sorte de réseau européen, puisque vous avez travaillé avec les élus, évidemment, mais il doit y avoir aussi le travail avec des associations, avec la société civile. Est-ce que vous avez un contact régulier à ce moment-là avec cette société civile?
Oui, tout à fait. Et nous avons eu la possibilité encore d'obtenir de la part de la direction de la recherche au niveau européen des crédits pour faire des études dans différents pays avec des sociologues et des politologues pour avancer sur ces questions et sensibiliser et la société civile et les partenaires administratifs et politiques.
Et ça donnait lieu à des publications, à des prises de
décision. Oui, tout à fait, à des publications. La brochure que j'ai évoquée sur une ville égalitaire a eu un énorme succès. Nous avons également, avec la sociologue Jacqueline Hennen, où nous avons mené cette campagne dans 7 pays européens, produit également des documents qui ont été très largement diffusés au niveau européen.
Françoise Gaspard, cette question que vous menez au niveau européen, vous allez aussi la porter au niveau international, notamment en travaillant au comité chargé de l'application de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, le CEDAW, c'est l'acronyme de cette commission donc qui est à l'ONU. Et est-ce que vous y trouvez quelque chose de très différent? On se dit, c'est pas vraiment pareil de traiter, même si vous avez signalé qu'il y avait des différences entre l'Angleterre, l'Allemagne ou différents pays européens, c'est pas vraiment pareil quand on arrive à l'ONU et où on doit traiter, j'imagine, avec des pays comme l'Arabie Saoudite, le Pakistan, voilà, qui siègent évidemment dans ces instances.
Alors, je voudrais rappeler comment je suis arrivée au comité CEDAW. En réalité, j'ai été chargée en 1998 de représenter la France à la commission femmes de l'ONU. C'est une commission qui existait depuis 1946, qui avait été notamment créée sous l'impulsion d'Eleanor Roosevelt et qui se réunit chaque année pendant 15 jours, 3 semaines à l'ONU pour examiner la situation des femmes dans l'ensemble du monde. Donc en 1998, Lionel Jospin me demande de représenter la France à cette commission. J'ai été dont j'étais membre pendant 3 ans. Et je découvre à l'époque l'existence de ce comité d'experts qui est chargé de surveiller l'application dans l'ensemble des pays qui ont ratifié le traité sur l'égalité mondiale, sur l'égalité des femmes et des hommes, de veiller à l'application dans chacun des pays de ce traité. Et sous la pression d'ailleurs de l'ambassadeur de France à New York auprès de l'ONU, je pose ma candidature pour être experte dans ce comité. Les experts sont élus par l'ensemble des membres qui ont ratifié la Convention sur l'élimination de toutes les discriminations à l'égard des femmes. Et je suis élue, je vais siéger dans ce comité. On est élu pour 4 ans, j'ai fait 2 mandats, donc 8 ans dans ce comité. Alors que fait ce comité ? Les pays qui ont ratifié la Convention doivent remettre tous les 4 ans un rapport sur la situation des femmes dans leur pays au regard de la Convention. Et le comité examine chaque année un certain nombre de rapports et émet des conclusions et des recommandations aux pays qui ont été examinés. Donc c'est une formidable observatoire de la situation des femmes dans l'ensemble du monde. Certes, tous les pays n'ont pas ratifié cette convention, mais je crois aujourd'hui que sur 183 ou 184 pays membres de l'ONU, environ 170 États l'ont ratifié. Alors certains tardent à remettre leur rapport, mais sont rappelés à l'ordre s'ils ne le font pas.
Quels sont les critères justement de cette convention voilà, pour évaluer justement la situation des femmes dans tel ou tel pays ?
Alors cette convention comporte un certain nombre d'articles, et en particulier un article 4 qui encourage les États à prendre des mesures d'action positive pour aider les femmes à accéder à la prise de décision, mais également demande aux États ce qu'ils font en matière d'égalité scolaire, en matière d'égalité des femmes dans l'agriculture, d'égalité des femmes et des hommes dans l'agriculture, dans la santé. C'est une convention, un traité extrêmement complet sur les questions d'égalité des sexes.
Et alors justement, avec cet observatoire international, est-ce que, Françoise Gaspard, vous arrivez à trouver une forme de condition commune des femmes dans le monde ?
L'égalité n'existe nulle part. Il y a des pays plus avancés que d'autres. Il y a des pays qui considèrent qu'ils sont parfaitement en règle avec la Convention, alors qu'ils sont loin de l'être. Et ce qui est très intéressant, c'est que lorsque, à l'issue de l'examen d'un pays, il y a donc un rapport qui est énoncé par le comité, les ONG des pays s'emparent de ce rapport et font avancer la situation. Par exemple, pour le Maroc, lorsque le Maroc avait été examiné, nous avions été très sévères sur la Moudawana, le code civil marocain. Les Marocaines s'en étaient emparées et avaient fait avancer la situation des femmes dans le droit au Maroc, sans que ce soit toujours aujourd'hui parfait, mais il y a une interaction entre les conclusions du comité et la société civile et politique des pays concernés.
Alors, vous rappeliez la création de ce CEDAW après la Seconde Guerre mondiale, sous l'impulsion d'Eleanor Roosevelt. Il est intéressant de voir que les débats qui agissent...
Je vous interromps, c'est pas le CEDAW qui est créé.
Non, c'est la commission femme du CEDAW.
C'est la commission femme. Et en 1975, lorsqu'il y a la première grande réunion sur les droits des femmes à Mexico, en 1975, organisée par l'ONU, il est décidé qu'une convention va être rédigée sur les droits des femmes, qui sera la convention CEDAW, on dit CEDEF en français, qui est adoptée en 1979. Donc c'est à partir de 1979 que cette convention est active.
Et alors, on retrouve les débats à l'initiative, enfin, comment dire, à l'origine de cette convention, qui sont des débats qu'on retrouve toujours quand on pose la question spécifique des femmes, par exemple, qui est, est-ce que ça n'empire pas les choses de faire des femmes une sorte de catégorie à part? Est-ce que ça va pas les marginaliser encore plus, les mettre encore plus dans un ghetto? J'imagine que c'est un argument que vous avez entendu, réentendu tout au long de votre vie, de votre engagement, et donc, quelle est la réponse que vous apportez à ça, Françoise Gaspard ?
Je pense que la réponse que permet l'application de la Convention, c'est précisément de sortir les femmes de la marginalité. Ce qui était très intéressant, c'est que, en raison de mes fonctions d'experte au comité, j'ai été invitée, notamment par l'Union interparlementaire, qui est une union qui siège à Genève et qui représente les différents parlements du monde, d'aller encourager un certain nombre de pays à mettre en œuvre la Convention. C'était le cas, par exemple, d'une expérience très importante pour moi au Rwanda. Je suis allée à Kigali au moment où on élaborait la nouvelle constitution en 2000 pour ce pays. Et j'ai travaillé avec le pays pour rédiger cette nouvelle constitution qui a inclus dans son texte le principe de parité. Et ensuite, j'ai été conduite à travailler avec les parlementaires du Rwanda pour rédiger les lois électorales. Aujourd'hui, le Rwanda est le premier pays au monde pour le nombre de femmes dans son parlement.
Françoise Gaspard, on le voit, la question des femmes est souvent un enjeu national. Comment est-ce que vous agissiez justement, un enjeu presque d'identité nationale, la façon dont les femmes sont considérées, dont elles sont incluses ou non dans la vie politique, dans la vie sociale? Comment est-ce que justement, depuis l'ONU, où il faut composer avec ces différences historiques, ces différences culturelles, comment est-ce que vous faisiez, vous, à titre personnel, voilà, comment est-ce que vous avez mené votre barque en quelque sorte, Françoise Gaspard?
Je la menais dans le respect des textes en présence. Et les textes, en particulier cette convention, sont très favorables à une égalité parfaite.
Et ça suffit pour appuyer une action, je sais pas, auprès de pays, là vous avez parlé du Rwanda, on voit que ça a marché, mais voilà, des pays comme que je citais tout à l'heure, le Pakistan, l'Arabie Saoudite, c'est plus compliqué.
Oui, je évoquais le cas du Koweït, qui est un cas intéressant. Curieusement, le Koweït, qui vient de déposer, c'était 2002 ou 2003, son rapport en application de la Convention, nous presse d'examiner rapidement son rapport. Ce qui est rare qu'un pays nous demande de nous presser pour venir présenter la situation des femmes, surtout un pays comme le Koweït. Et nous discutons avec l'ambassadeur du Koweït à New York, et en réalité nous découvrons que les dirigeants du Koweït souhaitent introduire dans leur constitution le suffrage universel, alors que le Parlement koweïtien n'y est pas favorable. Et donc, ils nous demandent en quelque sorte d'examiner son rapport pour presser le Koweït de donner le droit de vote aux femmes. Donc, vous voyez, une interaction entre la convention, entre le comité d'experts et les pays pour faire avancer la situation dans tel ou tel domaine.
Malgré tout, Françoise Gaspard, on a bien dû vous opposer de temps en temps une forme de spécificité culturelle face à l'égalité des sexes.
Bien sûr. Je me souviendrai toujours de l'audition de l'Arabie Saoudite devant le comité. Commission, il y avait énormément de représentants qui, parce que le comité auditionne les représentants du pays. Ils étaient venus très 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 nombreux, et c'était en fait très partagé entre eux. Le représentant du pays disait oui, par exemple, il faudrait que les femmes puissent conduire. C'est vrai, nous sommes d'accord, l'interdiction pour les femmes de conduire est un archaïsme. Mais quelqu'un d'autre dans la délégation disait, mais en fait, elles sont très contentes, comme ça, elles ont un chauffeur. Donc, on voyait des tensions à l'intérieur du pays qui se manifestaient. Bien sûr, il y a des résistances dans certains pays pour que les droits des femmes avancent. Mais encore une fois, ces auditions des pays par le comité font avancer la situation en ce qu'elles mobilisent les ONG du pays pour suivre les recommandations du comité.
Il y a un argument qu'on entend aussi qui serait celui d'une forme de néocolonialisme. Voilà, imposer l'égalité des sexes, ce serait imposer une vision de la société, une vision de l'histoire qui serait une vision occidentale.
Bien sûr, bien sûr. Nous entendons cet argument.
Et vous n'y répondez pas ?
Disons que à partir du moment où on accepte une convention, on doit la respecter.
Justement, puisqu'on parle de convention, il faut parler aussi de construire en quelque sorte l'égalité entre femmes et hommes comme un objet juridique. C'est pas quelque chose de forcément évident. Quels sont les écueils que vous avez pu rencontrer justement ou que vous voyez vous à cette idée, voilà, qu'il y a un droit qui doit être construit, j'allais dire en faveur, c'est pas vraiment la question d'en faveur, mais voilà, d'être construit pour les femmes aussi.
Écoutez, je pense que la situation évolue, que les échanges internationaux, que l'Internet, le développement d'une société civile font progressivement bouger la situation. Rien n'est parfait, il y a encore beaucoup de résistance à l'égalité, mais je crois que l'égalité, malgré tout, est en marche.
Est-ce qu'une solution, c'est pas justement d'inverser la charge de la preuve? C'est-à-dire, plutôt que d'aller chercher là où il y a la discrimination, de demander aux États de faire la preuve qu'ils luttent contre
absolument,
cette discrimination?
Absolument.
Est-ce quelque chose que vous avez pu mettre en œuvre là où vous vous trouviez à l'ONU ou même plus dans d'autres circonstances?
J'espère.
Merci Françoise Gaspard. Demain, ce sera notre dernier entretien en forme de conclusion. On ramassera toutes les réflexions menées ensemble depuis le début de la semaine pour terminer sur ce qui constitue en quelque sorte le fil rouge de votre parcours et de vos travaux, la République face à la différence. À demain.
Retrouverez demain la suite de cette rencontre de Raphaël Bourgois avec Françoise Gaspard. À voix nue, attaché d'émission Claire Poinsignon, prise de son Christophe Papon, Yvan Turc, réalisation Vincent Deck, attaché d'émission Claire Poinsignon. Cette émission s'écoute en ligne et se podcast sur franceculture.fr.